Vous êtes sur RTL.
Trentaine de minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
Depuis le début de la crise du coronavirus, les Français se précipitent dans les supermarchés. Les employés qui y croisent donc des centaines de clients tous les jours sont aussi, d'une certaine manière, en première ligne. Et ils tentent, autant que faire se peut, de se protéger d'une éventuelle contamination. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu dans une grande surface, hein, le géant casino de Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans le Val-de-Marne. Est-ce que des précautions ont effectivement été prises pour protéger les employés ?
Oui, des dispositifs ont été mis en place. N'entre que 10 personnes toutes les 20 minutes. Un gel hydroalcoolique ainsi que des gants sont distribués à l'entrée du magasin. Et même si rien ne remplacera la prudence des clients, Denise a même apporté ses propres lingettes pour nettoyer son caddie tout entier.
Et que vous mettiez sur le visage.
Ne pas tousser en l'air, ne pas venir lorsqu'on présente des symptômes, c'est la hantise ici.
Barrière à aéroport pour respecter justement la distance.
Alors David Laporte, le directeur du géant casino, nous montre comment il tente de limiter les risques.
Et la barrière permet aux clients de visuellement comprendre qu'il ne faut pas trop s'approcher. C'est pour qu'elle ressorte bien, que ça marque les esprits. Il y a eu un petit temps de prise de conscience qui a été un peu... pas long, mais il a fallu quelques jours pour que les gens réalisent vraiment
comme
ce qui se passe.
Comme au rayon boucherie et fromagerie, cette imposante barrière rouge à la poissonnerie. Hassan est le responsable.
Nous aussi, on est bien protégé avec les gants, on a tout ce qu'il faut.
Pour lui éviter de passer les produits de la main à la main, il pose la commande sur une table accessible aux clients.
Les clients, ils demandent et moi, je prépare la commande et je dépose la commande sur la table. Et les gens, ils sont habitués avec nous.
Quelques mètres plus loin, on attrape les légumes en glissant sa main dans un sac plastique. L'écriteau est très clair.
Se servir des fruits et légumes avec le sac plastique directement pour éviter au maximum, encore une fois, les contacts.
Et très important, les légumes mis en évidence au centre de la Grande Allée sont des légumes qui s'épluchent. C'est plus prudent car ils ont peut-être été touchés par une personne porteuse du virus.
Et Julien, les hommages se multiplient en fait pour saluer nos caissières et nos caissiers. Comment le vivent-ils ?
Eh bien, avec fierté, et ils peuvent ici, car aucune ne manque à l'appel aujourd'hui, m'a avoué fièrement le directeur. La chanson de Jean-Jacques Goldman, Ménouchal l'a écoutée plusieurs fois.
Parce que c'est bien qu'il parle, parce qu'en fait, après, je comprends tout à fait que les médecins, les infirmières, ils sont plus avec les personnes malades. Mais en fait, nous aussi, on travaille, on est là pour vous. Donc, nous aussi, on a le contact direct avec les personnes. On sait vraiment pas s'ils sont malades, s'ils sont pas malades. Mais on est quand même là pour... on vous encaisse, on fait tout, on vous aide. Oui, franchement, oui, ça me fait vraiment plaisir. Parce
dispositif
que...
imposant ici. Les caissiers et caissières sont, eux, protégés par un grand plexiglas. Glace rassurant, les postillons de Claude et des autres clients ne passeront pas par là.
Je rassure, oui, on a un peu la psychose quand même. Hein. C'est bien, c'est une sécurité.
J'évite de passer trop près des gens, c'est tout, hein, que faire d'autre.
Pour ça, on n'est pas trop tassé, non, ça va.
Est-ce que vous avez senti qu'au début de la crise, les clients étaient négligents ou faisaient assez attention ?
Non, ils ne faisaient vraiment pas attention. C'est maintenant là, que ça devient de plus en plus grave. C'est maintenant qu'ils font vraiment attention.
Plus que jamais, les supermarchés sont le lieu de la vie collective, comme le définit l'écrivaine Annie Ernaux. Car tout autour, les rues et les commerces sont devenus déserts.
Merci beaucoup Julien Fautra. Il contribue incroyablement à notre vie quotidienne. Et c'était très important qu'on entende aussi ce reportage sur la situation de nos caissières et de nos caissiers dans l'ensemble de nos magasins. Il est 7h19.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
Alors que la France entre dans sa deuxième semaine de confinement, la Chine, elle commence à lever certaines restrictions. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes spécialiste de la Chine, chercheur à la Fondation de la Recherche Stratégique. Que se passe-t-il dans la province du Hubei depuis aujourd'hui ? On peut librement circuler dans la province ?
Alors, il y a une levée progressive des restrictions de déplacement dans l'ensemble de la province, à l'exception notable de la ville de Wuhan, puisqu'il y a encore de nombreuses personnes malades à Wuhan, même si le nombre de nouvelles transmissions interhumaines a été extrêmement faible ces derniers jours.
Je vais y revenir. La région de Hubei, c'est plus de 50 millions de personnes, vous nous le confirmez ?
Le Hubei, c'est effectivement quasiment la population française.
Et c'était l'épicentre du coronavirus avec 8 semaines de confinement.
Exactement, puisqu'à partir du 23 janvier, la ville de Wuhan, puis ensuite l'ensemble des grandes villes de la province du Hubei, ont mis en œuvre des mesures non seulement de distanciation sociale, mais aussi de confinement. Et là, on parle bien de confinement strict, de confinement total.
Il était par exemple interdit d'être sur son balcon, vous nous le confirmez ?
Il était interdit d'être sur son balcon, vous ne pouviez sortir que quelques fois par semaine pour aller faire vos courses, non pas dans le quartier, mais en bas de l'immeuble. vous pouviez vous faire livrer vos courses, mais encore une fois, de façon extrêmement limitée.
Bon, donc on n'applaudissait pas les soignants, soit sur son balcon, hein, j'ai bien compris.
Il y avait au tout début à Wuhan, dans les premiers jours, la volonté d'applaudir les personnels soignants, ouais. Mais aussi les livreurs. On parlait des caissiers en France, c'était surtout les livreurs en Chine. Cela a été fait dans les premiers jours, puis très vite, la crainte d'une contamination entre les balcons, entre guillemets, a fait que les restrictions ont été encore plus fortes.
Alors, ça c'est la région et les 50 millions de personnes. Est-ce que à Wuhan, dans la ville d'origine, on peut désormais mener une vie qui devient plus normale ?
À Wuhan, la vie commence tout juste à se normaliser. On peut sortir quelques fois par jour, mais encore une fois, en se protégeant, en portant un masque, etc. La fin du confinement dans la ville de Wuhan est annoncée pour le 8 avril. Et encore une fois, il faut le rappeler, il y a encore plus de 1500 cas graves à Wuhan sur à peu près 5000 personnes encore hospitalisées.
On détaille les choses concernant Wuhan, parce qu'évidemment, en écoutant ce qu'ils ont vécu, on pense aussi à nous, c'est évident. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils peuvent déjà commencer quand même à circuler, même s'ils ne peuvent pas quitter leur ville ?
Alors, les transports en commun n'ont pas encore repris dans la ville de Wuhan. Les écoles sont évidemment encore fermées. Et la majeure partie des entreprises n'ont évidemment pas ouvert. Mais par exemple, vous pouvez descendre en battre votre immeuble pour faire un tout petit peu de sport. Ouais. Mais encore une fois, les gestes barrières sont respectueusement surveillés.
La société chinoise est une société policée et policière. Est-ce qu'il faut un justificatif médical ou une autorisation de sortie pour aller faire son petit tour en bas de chez soi en ce moment à Wuhan ?
Alors, la plupart du temps, c'est le gardien d'immeuble ou les comités de quartier hérités des comités de quartier du Parti communiste des années 50 qui sont en charge de surveiller les déplacements des gens. Et vous avez notamment, par exemple, sur votre téléphone, des applications qui vous permettent d'être non seulement surveillé, mais de surtout être contrôlé dès que vous sortez de votre immeuble.
Eh ben, on qualifie souvent la Chine de première dictature numérique mondiale. Qu'avons-nous appris des Chinois en la matière quand même de confinement et dans l'expérience très violente qui a été la leur ?
Alors, ce qu'on a appris de façon très claire et ce qui a surpris d'ailleurs certains épidémiologistes qui savaient effectivement que c'était un facteur important, mais pas forcément à ce point, c'est premièrement la restriction de déplacement et le confinement qui ont été des outils majeurs pour limiter la propagation du virus. Et ensuite, lutter contre l'épidémie. Deuxièmement, les mesures plus largement de distanciation sociale, oui, qui sont le résultat de ce confinement, ont permis encore une fois de réduire les infections. Et puis, enfin, la nécessaire protection non seulement des personnels soignants, mais également des personnels exposés à un risque. Et donc, la relance massive de la production en Chine d'équipements de protection, dont les masques. Pour vous donner juste un chiffre, en 2019, la Chine produisait 20 millions de masques par jour. Ces derniers jours, elle en produit 120 millions. On a multiplié par 6 la production de masques en Chine.
120 millions de masques par jour produits en ce moment, j'ai bien compris le chiffre ?
Exactement, contre moins d'un million en France.
Une toute dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que les Chinois redoutent une seconde vague ?
Il y a des inquiétudes importantes à Pékin d'une seconde vague épidémique, non seulement à travers des cas d'importation. Il y a déjà eu près de 500 cas d'importation, principalement de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Iran ou encore d'Espagne. Et puis deuxièmement, la crainte que la fin des restrictions de déplacement, notamment à Wuhan, ne permette un retour de l'épidémie. Et on a eu une inquiétude hier, puisqu'un médecin, notamment, a été contaminé sur le territoire chinois. C'était la première fois depuis plusieurs jours qu'il n'y avait pas eu de contamination interhumaine sur le territoire. Mmh. Il y a donc une crainte véritable à Pékin et donc des mesures de distanciation sociale, de protection qui perdurent, puisqu'encore une fois, il faut à tout prix éviter une seconde flambée épidémique.
Merci beaucoup Antoine Mondaz, chercheur à la Fondation de la Recherche Stratégique. Vous avez entendu ce chiffre stupéfiant, 120 millions de masques fabriqués chaque jour en ce moment en Chine.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h25 sur RTL, on retrouve tout de suite nos brigadistes, en l'occurrence aujourd'hui Eric Vanier. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service économie d'RTL. Avec vous, nous allons revenir sur les déplacements, bien entendu. Alors, première question Eric, j'ai pris les billets de TGV pour les vacances de Pâques, je serai remboursé en bon d'achat à valoir sur un autre voyage ou en numéraire ?
Alors, il faut faire la différence entre avant ou après. Ouais. Avant le départ du train, vous serez recrédité en numéraire, en cash sur votre compte, celui de la carte bancaire en général. Après le départ du train, en bon d'achat, à utiliser sur n'importe quelle destination pendant un an. Alors, aucun frais, les démarches se font sur le site de la SNCF, 8.SNCF. Inutile d'aller en gare ou dans une boutique SNCF, les guichets sont fermés. Ce remboursement gratuit est valable pour tous les TGV, Ouigo y compris, et tous les intercités circulant jusqu'au 30 avril, quel que soit le type de billet. Si votre train est supprimé, vous recevrez un SMS, un mail ou un coup de fil. La SNCF sait faire avec les grèves. Attention, certains services sont suspendus, comme Junior et compagnie, le service d'accompagnement des enfants en train, ou encore Accès Plus, le service d'assistance aux voyageurs à mobilité réduite. Mais la SNCF, de toute façon, recommande vivement aux personnes de plus de 70 ans et à celles qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires de surtout ne pas se lancer en ce moment dans un voyage en train.
Autre question postée par nos auditeurs et par mail sur témoin au pluriel, je le rappelle, @rtl.fr, témoin au pluriel, @rtl.fr. Y a-t-il encore des trains qui roulent dans le pays?
Oui, pour l'instant, il n'est pas question d'arrêter les transports publics, ne serait-ce que pour permettre aux salariés des secteurs essentiels d'aller travailler. Alors pour aujourd'hui, la SNCF annonce 15% de TGV en circulation. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est volontaire de réduire l'offre pour vous dissuader de voyager. Idem pour Thalys et Lyria, le réseau qui dessert la Suisse, 15%. Eurostar un peu plus, 25%. Les intercités, 15% également. Les TER, 20%. Et les RER et Transilia en Ile-de-France, 30%, avec, attention, sur certaines lignes, un trafic qui s'arrête plus tôt que d'habitude en soirée.
Merci beaucoup Eric Vanier, membre de la brigade RTL.